Petite voix, laisse-nous emprunter ton nom, toi qui jamais ne nous quittes ni ne doutes et nous plonges dans l'insomnie vagabonde.
Guide devant la complexité du monde et boussole dans les choix de chaque route, tu restes et demeures un fidèle compagnon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 6e podcast de La Petite Voix. Voilà, déjà 6 mois qu'on partage nos fiertés, nos patinages, nos objectifs pour les semaines à venir. On est à la moitié de notre objectif d'année. On a prévu de vous faire découvrir 12 podcasts et on fera un petit bilan à la fin. Donc voilà, on commence le 6e et à la fin, on sera à la moitié de notre objectif. Donc on tient le bon bout. Et ben c'est parti pour ce podcast du bilan mois de juin 2022. On commence, Léni, par nos fiertés. Est-ce que tu as une petite idée pour commencer ?
Ouais, ma grande fierté, moi, ça va être d'avoir réussi à passer beaucoup de temps sur Communo. J'ai pas réussi à le finaliser, mais en tout cas, c'est pas faute d'avoir bossé dessus. Là, c'est sûr, au mois de juillet, vu le temps que je vais avoir tout seul à la maison, parce que Marion, tu seras pas là avec les enfants qui seront ailleurs, etc. Je pense que c'est évident, ce mois-ci, j'ai réussi à le publier, donc ça, c'est cool. Donc, je suis vraiment content d'avoir réussi à avancer là-dessus, sur tout ce qui est réservation, etc. Je me rends compte en fait que c'est pas forcément hyper clair pour tout le monde, Communo, ce que c'est. Y a quelqu'un qui m'a demandé justement, ah, j'ai écouté votre podcast et tout, mais du coup, c'est quoi Communo concrètement, pourquoi tu n'utilises pas quelque chose qui existe déjà, etc. Donc, je vous dis rapidement ce que c'est. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez, Allo Voisin qui existe, qui est une plateforme qui permet justement de recenser un petit peu du matériel qu'on peut se louer entre voisins. Et en effet, ça ressemble beaucoup. Après, moi, ce que je veux faire justement, ce que j'ai en tête, c'est quelque chose justement qui n'est pas une entreprise, donc Allo Voisin, bah voilà, hein, c'est une start-up qui prend l'argent à chaque fois que quelqu'un réserve, emprunte quelque chose à son voisin. C'est vraiment pas ça l'idée, quoi. Moi, l'idée, c'est que ce soit open source, que n'importe quelle communauté, une commune ou une association ou n'importe quoi soit capable de l'héberger, de l'auto-héberger, et que ensuite ces instances qui sont hébergées par des personnes, par des communautés, soient capables après de communiquer les unes avec les autres. C'est-à-dire, j'en mets une à Jetigné, il y en a une à Montaigu, ou il y en a une à Cugan qui est à côté, ou même à Nantes. Eh bien, on pourrait décider, parce qu'on est assez proche géographiquement ou quoi que ce soit, de s'abonner à une autre instance, etc. Et du coup, là, on verrait les offres des autres instances. Bref, ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'Internet nouvelle génération, ce qu'on appelle du fait divers. Et donc voilà, je crois beaucoup à ça. Et en plus, le fait de faire mon propre projet open source, etc., fait que du coup, on peut imaginer après le faire évoluer comme une vraie plateforme justement pour les collectifs, pour les communautés, pour aller au-delà de la mutualisation de matériel, c'est-à-dire réussir à imaginer d'avoir de l'entraide, de l'échange de services par exemple, avoir tout ce qui peut tourner autour de la création de services communautaires. On peut imaginer, évidemment on a en tête ceux qui sont créés par les communautés de communes, etc., donc c'est-à-dire un transport collectif ou des choses comme ça. On pourrait tout à fait imaginer qu'il y a des choses comme ça qui se mettent en place au sein d'une communauté, comme un blablacar communautaire, un peu plus local, avec des gens qui ont l'habitude de faire ça ensemble, et voilà. En tout cas, voilà, ça avance bien, il y aura la première version au mois de juillet, donc là je suis très content. Je te passe la main.
Moi, j'ai mis en numéro 1 dans ma fierté le fait d'avoir animé ma première fresque du climat avec 5 participants. Donc, c'était assez confort pour un démarrage. Très fière de l'avoir menée. Merci, Léni, d'avoir posé la date et incité à y aller, en relançant les gens aussi. J'ai vu que c'était pas forcément simple la partie où on est sur le purement scientifique. Je pense qu'il me reste encore à travailler cette partie-là pour être un peu plus à l'aise sur l'animation de ce moment-là. Après, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie de la fresque où là, on est sur le ressenti, comment les gens vivent cette période, comment voilà, ils vivent aussi les infos qu'ils ont piochées dans la fresque. Ça, j'ai été très à l'aise sur cette partie-là et je pense que c'est la partie que je préfère animé. Voilà, sur la première partie, il faut encore que je travaille les contenus pour être plus à l'aise là-dessus. Mais c'était très chouette voilà, d'animer cette première fresque, puis ça me donne envie d'en animer d'autres. Voilà, je pense qu'on posera d'autres dates dans les semaines, enfin peut-être les mois à venir, parce que là, les deux mois d'été sont assez chargés avec les enfants, mais voilà, au mois de septembre, je pense qu'on pourra poser une nouvelle date. Et puis ça me donne aussi envie de trouver ces 3 heures-là pour pouvoir l'animer auprès de mes élèves. Donc ça, c'est un peu le challenge que je me fixe pour l'année à venir. Voilà, avec mes élèves, j'aimerais bien, là, en première, en terminale, pouvoir proposer quelque chose. Donc, voilà, affaire à suivre là-dessus. Tu voulais dire quelque chose là-dessus, peut-être ? Non ? Une autre fierté, alors ?
Ouais, ouais, carrément. Moi, j'étais aussi content que d'organiser cette fresque du climat. Bon, on va peut-être en parler pendant dans les patinages, mais ça a été tellement difficile de faire venir 5 personnes, alors que c'était gratuit, alors que ça s'était jamais produit. C'est quelque chose d'assez connu, la fresque du climat, et pourtant il n'y en avait jamais eu à Jetigny, etc. Donc ça aurait pu attirer beaucoup de monde quand je vois 300 000 personnes qui viennent au Hellfest et qu'on galère à faire venir 5 personnes, alors que pourtant c'est important. J'ai l'impression de comprendre les enjeux autour du climat.
Tu dérives.
Mais oui, c'est le patinage. Succès, gros coup aussi également dans le potager. Nos premières récoltes, les tournesols qui font 2,35 m, ça fait trop du bien. Bon bref, en tout cas, le potager est vraiment très très florissant cette année. Je ne sais pas si on en a déjà eu un aussi beau.
On dit ça chaque année,
je sais, mais là en vrai, je pense que sérieusement. C'est vrai, il est très diversifié, plus diversifié que d'habitude.
Et on a réussi à relancer aussi les semis d'hiver, ce qui était ce qu'on n'avait pas réussi à faire l'année dernière. Donc là, j'ai vu qu'ils étaient sortis cet après-midi en allant me balader dans la verrière. Donc je pense que ça, c'est intéressant. On devrait avoir des choux d'hiver qui vont peut-être arriver un peu trop tard, mais on verra. Voilà, ils arrivent en tout cas, ils sont en route.
Et là où je suis content aussi, c'est que du coup, alors on a réussi à l'entretenir correctement et on a aussi progressé, je pense, dans le côté protection de la biodiversité. On a beaucoup plus de fleurs qui sont pas productives de légumes, etc., qu'on laisse sciemment, on les reconnaît, on sait ce que c'est, et du coup voilà, je suis hyper content parce qu'il y a 1000 abeilles dans le potager. Et donc ouais, ça je suis très content. On a fait la première récolte de pommes de terre aussi, on a planté les courges, on a planté des choux de Bruxelles, on a fait plein de choses là, donc sur ce mois-ci. Donc ça c'était cool, c'était le programme. Qu'est-ce que t'as planté du coup? T'as planté des petits choux, c'est ça?
Je dois avoir des oignons qui sont partis aussi, ça devrait mettre un peu de temps ça. J'ai remis d'autres courges encore pour en faire repartir, et puis j'ai remis des artichauts pour l'année prochaine. Donc ça c'est du plus long terme, mais voilà. On a
deux artichauts d'ailleurs qui poussent. Il y en a un qui fait la taille de ma main pour l'instant, et puis un autre plus petit, mais c'est trop bien, on va pouvoir manger. Bon, on est 7, donc on va manger 4 feuilles dessus, mais... En tout cas, ça c'est. Voilà, on fait nos tests petit à petit et ça commence à être pas mal. Je me sens un peu plus prêt pour le potager collectif qui va commencer en septembre. Là, on a eu des réunions aussi ce mois-ci pour le lancer. Et ouais, en septembre, là, on va s'y mettre à fond. On est une petite équipe d'une dizaine de personnes, là, du coup. Donc, on a réussi à recruter. Il y a quelques personnes de Jetting et Collectif qui m'accompagnent maintenant. Ça se monte. Tout doucement, mais sûrement. Et du coup, ça aussi, c'est une petite fierté, ça arrive. Une autre fierté?
Ouais, un grand, grand chambardement dans les chambres là-haut. On a pas mal... j'ai pas mal actionné, même si tu m'as aidé aussi. Mais l'idée, c'était de faire évoluer nos chambres là-haut pour séparer les jumeaux qui étaient... assez relou. Le soir, c'était difficile de les faire s'endormir. Donc là, l'idée, c'était de séparer Avril des garçons et puis du coup, d'enlever la salle de jeu, d'en faire notre chambre. Donc j'ai passé pas mal de temps au mois de juin à déplacer des meubles, à repeindre. J'ai repeint deux pièces là-haut, l'ancienne salle de jeu qui est devenue notre chambre et puis la chambre des gars. L'idée, voilà, c'était d'arriver à avoir un espace là-haut qui nous convienne à tous et qui soit adapté à chacun de nos besoins. Il reste un petit peu de boulot dans la chambre de Kyo et Tim pour leur faire un vrai bureau pour la rentrée. Et puis, on a pour idée de faire une mezzanine, mais ça sera un objectif du mois d'août, je pense. Donc voilà, ça viendra. Mais voilà, assez fière de me dire que je suis capable de faire des choses manuelles, un peu de bricolage, un peu de plâtre pour boucher les trous, pas mal de peinture, d'arriver à faire ça sur des délais pas laissant en chantier pendant 3 semaines. Donc ça, c'est cool. J'ai aussi un boulot qui me permet de faire ça. Au mois de juin, j'ai été moins convoquée que certaines années. Donc là, c'est plutôt cool. Ça me laissait 3 jours par semaine sans convoque. Donc voilà, ça va quand même avec ma deuxième fierté parce que j'ai été pas mal convoquée sur des surveillances cette année. Et les surveillances, c'est chouette parce que ça laisse du temps pour travailler et réfléchir. Donc j'ai eu le temps de préparer sur ces temps-là aussi ma rentrée avec les terminales. J'ai travaillé avec ma nouvelle collègue de terminale, Marie-Noël, voilà, sur la répartition. Et puis j'ai travaillé sur ma journée d'intégration, là, de mes premières ST2S. À la rentrée, donc toutes les réservations sont faites. Je vous en reparlerai au mois de septembre, mais voilà, c'est une chouette journée qui s'annonce et toujours dans le respect de l'environnement, parce qu'on va voyager en train, on va essayer d'être le plus respectueux possible de ce qui nous entoure. Donc voilà, j'ai quand même eu un mois assez actif et je trouve ça chouette d'avoir mené tous ces projets de front. Ok, c'est parti pour nos patinages, du coup. Il y en a quelques-uns ce mois-ci. Comme d'habitude. Allez, je commence, je me lance. Le premier patinage que j'avais noté, moi, c'est en lien avec le conseil communautaire. Donc, je sais pas si vous savez, mais dans ma mission d'élu de conseillère municipale, je siège aussi au conseil communautaire, donc le conseil de l'agglo, Clisson-Sèvres-et-Maine agglo. Donc, on est, je crois, de mémoire 56 à siéger. Des représentants des 16 communes. Donc, selon la taille des communes, il y a entre 3 ou 6, je crois, 7 représentants pour les communes les plus grosses. Donc, voilà, au conseil communautaire, donc on va gérer des choses qui sont en lien avec les compétences de l'agglo, par exemple les déchets. Moi, je siège à la commission déchets, donc c'est une de mes missions. Et sur ce conseil communautaire, donc on se retrouve à peu près tous les un mois et demi. C'est un conseil très formel. Enfin, c'est de l'information. Beaucoup, j'ai pas l'impression qu'on prend des vraies décisions. Moi, où je suis très frustrée, c'est sur la préparation. C'est que du coup, on reçoit 6 jours avant le conseil communautaire entre 1500 et 2000 pages à lire. J'arrive pas encore à faire le tri dans les sujets, à voir ce qui est important et ce qui l'est moins. J'arrive pas à trouver de relais pour m'aider, m'accompagner là-dessus. J'ai tenté des choses avec d'autres communes environnantes, d'autres conseillers communautaires, mais ça a jamais vraiment abouti sur quelque chose de fixe et qui a vraiment de l'intérêt. Et du coup, je trouve ça un peu difficile voilà, de le préparer, du coup, d'être actif. Cette semaine, il y avait un sujet qui concernait directement Gétigné. Et en fait, j'ai pas su rebondir parce que du coup, j'étais en live et on en avait pas parlé avec les élus. Je l'avais pas vraiment vu dans ce qui nous était envoyé dans les papiers. Et je trouve que voilà, je manque de réactivité et je manque. Voilà, je me sens frustrée parce que j'ai pas le temps et pas trouvé le moyen de le bien les préparer et donc je me sens pas opérationnelle sur le jour J. Donc oui, je vais chercher de l'info, je m'intéresse au sujet, mais c'est pas suffisant. Donc c'est vraiment un gros point là à travailler dans les mois à venir, sachant qu'en plus notre prochain conseil communautaire il est seulement fin septembre, donc il y aura 3 mois qui se seront écoulés et du coup ça va faire que ça va être un gros conseil, donc encore plus de pages à lire. Donc c'est voilà un gros patinage pour moi parce que j'ai l'impression de perdre mon temps sur ces 5 heures où je vais m'asseoir et en même temps je pense qu'il y aurait moyen vraiment de rendre ça plus efficace et de pas seulement en faire une chambre d'enregistrement. Donc voilà, j'aimerais bien être plus active, trouver en tout cas une façon de plus faire porter la voix de Gétigné sur ce conseil communautaire.
Est-ce que tu penses que du coup on pourra le préparer ensemble ou est-ce que tu penses que On pourrait le préparer avec, enfin, faire un comité, un peu comme vous préparez avec les élus.
Ouais, c'est déjà quelque chose qu'on a abordé là avec les 6 élus, de se dire comment on pourrait l'intégrer dans notre préparation. La problématique qu'on a, c'est que souvent le conseil communautaire, il tombe la même semaine que le conseil municipal. Donc souvent, on est happé par... par le conseil municipal et on manque voilà, de temps pour... Mais oui, il y a quelque chose à inventer, peut-être. J'avais pas pensé à ça. Peut-être d'autres personnes que les 6 élus qui sont déjà pas mal bookés. Du coup, ouais, faut qu'on trouve... Mais ouais, il y a un vrai sujet de réflexion. Et là, je me suis... Enfin, ça fait plusieurs mois que ça me travaille, ce truc de conseil communautaire. Là, le fait qu'il y ait un sujet qui concerne Gétigny et que j'ai pas réussi à monter au créneau, et en fait, ça passe en conseil municipal jeudi. Et là, je me dis, bah voilà, il y a de fortes chances que le maire et notre conseil nous disent, bah fallait en parler au conseil communautaire, c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Voilà, j'ai peur que du coup, ça soit pas d'avoir un peu loupé le coche, quoi, quelque part, sur un sujet qui était important. Enfin, je vous en reparlerai parce qu'il n'est pas encore tout à fait officiel, mais on reparlera de ce sujet-là, voilà, dans les semaines à venir.
Ok. Politique toujours. Moi, c'est les législatives, forcément, qui m'ont vraiment fait chier. J'ai l'impression qu'en plus, la gauche croit qu'ils ont gagné. Enfin, je comprends pas trop le... C'est très bien, c'est super chouette qu'il y ait eu un rassemblement, etc. Après, rassembler, la gauche ne gagne même pas. C'est-à-dire qu'on a 2/3 des électeurs, en tout cas, qui votent à droite... très à droite, je comprends pas quoi. Et en plus, ils ont le culot d'appeler à faire un barrage à l'extrême gauche, enfin à la gauche en fait. Donc sérieux, je comprends pas. J'ai vraiment beaucoup de mal. À chaque fois, j'ai l'impression que je serai pas déçu parce que je m'attends à rien et puis en fait, je suis quand même déçu. Donc je sais pas.
La claque des 89 députés RN à l'Assemblée nationale, c'est quand même, voilà. On n'avait jamais vu ça, en fait. C'est...
Ouais, ouais. Après, je suis pas plus emballé par le macronisme, etc. Donc, c'est ça que j'ai un peu du mal aussi, en fait. C'est que, bref, en tout cas, on a refusé le SMIC à 1500 euros, on a refusé la retraite à 60 ans, on a refusé du progrès social. Pourquoi ? Pour quel... je sais pas ce qui motive les gens à voter... Apparemment, c'est plus les vieux qui ont voté Macron et puis les jeunes qui ont voté RN. Je pige même pas. Enfin, je comprends même pas ces stats. Je ne comprends pas.
Et puis, il y a quand même 50% des gens qui ne se déplacent pas. Donc, ça veut dire 50% des gens qui ne se sentent pas concernés par ce qui va les concerner rapidement. Hein. On rappelle que plus la droite fait de réformes et moins on a de système de santé qui tient la route, moins justement nos routes sont entretenues. Enfin, on revient tout à l'individualisme. Et donc, il faut qu'on comprenne que plus on vote à droite, moins on a de services publics, moins on a de système de santé. Et le système de santé, ça concerne tout le monde. Hein. Alors, la retraite, on peut se dire, oh, c'est dans longtemps. Le système de santé, c'est au quotidien qu'on bénéficie du système de santé. Enfin, voilà, j'ai du mal à me dire qu'une personne sur deux se fiche totalement de sa santé et de celle de ses enfants. Enfin, ça me paraît compliqué à intégrer, quoi.
Ah ouais, c'est ça. C'est toujours hyper complexe. Après, ça conforte dans l'idée que ben, il faut rien en attendre et il faut décentraliser. Enfin, faut faire de l'action décentralisée et locale, quoi. Mais c'est... Je comprends pas où on va en tant que société là.
Autre patinage.
Après, s'il y en a qui ont des clés à me filer et puis une grille de lecture qui m'apporte de l'espoir, allez-y hein, sur le côté politique. Allez-y, on est preneurs. Je vais passer au sujet de déprime. Le Hellfest a eu lieu. Et ce podcast, c'est le seul endroit où on entendra critiquer le Hellfest sur Terre. Parce que tout le monde encense le Hellfest. Tout le monde dit que c'est formidable. Tout le monde dit que c'est magnifique, génial, super. Faut juste arrêter. Le Hellfest, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Allez, je vous donne quelques chiffres. Le Hellfest, c'est 300 000 kilos de fuel qui ont été brûlés juste pour alimenter les scènes, le stage, les générateurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils ils pouvaient pas utiliser le réseau de Clisson, sinon toute la ville sautait. Et ça, du coup, j'avais pas capté, mais c'est ce genre de choses. Le bilan carbone, ils osent même pas le faire parce que ça sert à rien. Le Hellfest, c'est le plus grand parking de France, c'est-à-dire qu'ils ont détrôné Disneyland quand même pour un parking. Du coup, ils ont arraché des vignes, ils ont fait des trucs de fou dans le vignoble pour foutre les voitures des festivaliers qui viennent. Le Hellfest, c'est quoi encore? C'est des litres et des litres d'eau en amont du festival pour empêcher les voitures de se garer dans la ville de Clisson. Et puis c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes d'eau parce que c'est par canicule, du coup, on arrose les gens à outrance alors qu'on est en crise totale. On n'a pas le droit d'arroser. Et puis bah, en même temps, ils annoncent qu'ils vont faire une machine, les machines de Lille, là, ils vont venir s'implanter ici pour faire un parc à l'année, etc. Bon, voilà, formidable. J'avoue, je l'avais pas vu venir aussi le côté Hellfest Disneyland Paris avec du merchandising de folie où tout le monde achète son truc. Enfin, c'est en train de devenir n'importe quoi. Ils ont la folie des grandeurs et puis tout le monde kiffe ça. Même les écolos, j'ai l'impression qu'ils kiffent ça parce que c'est grunge, parce que ils ont pas greenwashé, ils ont darkwashé et ça marche pareil. Donc on peut rien dire dans le vignoble, quoi. Tu dis ça, tu craches dans la soupe. J'en veux pas de cette soupe là moi, enfin je sais pas, moi on est venu ici pour être dans un coin calme avec le train qui passe et puis pour pouvoir aller bosser tranquille. On est venu à la campagne, on n'est pas venu là pour voir Mickey et la parade passer dans notre jardin, quoi. Donc et puis c'est pas une association qui fait ce truc là en plus, c'est archi capitaliste, le gars il roule en Cayenne. On est vraiment sur le pactole, quoi, du truc, et tout le monde accepte ça, tout le monde kiffe, tout le monde enfin, je dis tout le monde forcément, probablement il y a des gens qui partagent mon point de vue, mais en tout cas je les entends pas, quoi. Voilà, tu voulais rajouter une petite couche de
sur la déprime. Oui, bah nous on a eu en plus à Gétigné une tour Eiffel qui est arrivée chez nous pendant 6 semaines, donc c'est pareil, à Gétigné on ne peut pas être contre la tour Eiffel, donc c'est aussi le premier podcast où vous entendrez parler de... En fait c'est pas qu'on est contre cette tour Eiffel, c'est que en fait moi ce qui me déprime c'est qu'on va faire déplacer des centaines de personnes pour une soirée mousse à un feu d'artifice à côté de la tour Eiffel, et quand on parle qu'il faut se bouger les fesses parce qu'on a une urgence et que bientôt on ne pourra plus manger à notre faim, et ben là tout le monde se met la tête dans le sable et puis on n'en parle pas, enfin voilà, on bouge les foules pour moi ça me fait penser à voilà, il faut du jeu et du pain pour les foules et puis le reste on s'en tape, enfin voilà, est-ce que c'est ça qu'on veut faire de notre société, quoi, une société où juste on est sur le fun et sur alors oui il faut du fun, oui il faut, on a besoin de se détendre et on est les premiers à avoir besoin de partir en vacances et avoir envie de se détendre aussi, mais peut-être qu'avant de se détendre il faut se bouger le cul, enfin là clairement je pense que on fait pas la partie où on se bouge le cul, enfin on fait la partie de détente calme, posé, on profite de nos soirées, on profite de nos week-ends, on profite de tout. Ouais, ok, bah, mais là, on a aussi du pain sur la planche sur tout le reste, en fait. Enfin, c'est voilà, quand tout le monde aura pris sa part dans les urgences, hein, parce que là, on a vraiment des urgences qui nous collent aux fesses. Et bah oui, on pourra peut-être se détendre un petit peu une fois par an, mais en fait, on peut pas que se détendre, quoi. Enfin, moi, je suis un petit peu, j'avoue, quand je regarde le feu d'artifice de ma fenêtre. Bah, j'ai du mal à me réjouir, en fait.
Ou alors, faut juste qu'ils acceptent et qu'ils disent « Bon, en vrai, c'est mort. » Et... Enfin, tu vois, au niveau politique, ils disent « Bon, en fait, ça viendra peut-être, hein, mais bon, en fait, on pourra plus rien faire pour le réchauffement climatique et puis on lâche l'affaire et on profite le temps qu'il faut. Enfin, » Et ça, éventuellement, tu sais, ce serait moins hypocrite. Et je leur dirais « Mais non, faut y aller et tout. » Mais là, c'est pas ça. C'est même pas ça. C'est... Mais c'est cool la culture, je suis pour, et je sais que toi aussi, tout le monde est pour la culture, comment être contre ?
Mais il faut que là aussi on revoie, comme on parlera sûrement des vacances au mois de juillet, mais il faut qu'on revoie nos façons de faire aussi. On peut faire du festif low-tech, on peut faire du festif qui ne demande pas de déplacer des camions qui vont déplacer une tour Eiffel et qui vont... Voilà, on pourrait très bien imaginer d'avoir du festif, du fun à côté de chez nous. Qui n'est pas pollueur, en fait, qui n'est pas qui ne tue pas tout autour de lui, quoi. Enfin, le Hellfest, est-ce qu'on peut pas imaginer des festivals qui sont locaux, beaucoup plus près des gens, que les gens n'aient pas besoin de traverser la France pour vivre un festival. Enfin, voilà, ce sont des bons moments, mais on n'est pas obligé de le faire en pourrissant la planète, en fait. Enfin, en pourrissant notre environnement, on peut le faire de façon respectueuse, en fait, respectueuse des autres humains, respectueuse, voilà, de ce qui nous entoure. Et je pense que c'est là où moi j'aimerais bien qu'on travaille, quoi. Du coup, c'est rigolo cette histoire-là, mais ça me fait penser à la fable, tu sais, la fable énigme, tout le temps tu ramènes à nos enfants celle que la cigale et la fourmi, à chaque fois que tu commences un livre, tu commences avec les débuts de la cigale et la fourmi, ce qui énerve prodigieusement nos enfants. Et du coup, l'autre jour dans le train, j'étais en train de me faire cette réflexion-là, je me dis aujourd'hui, est-ce qu'on serait pas un peu dans cette histoire-là où du coup, bah... Ouais, ok, on s'éclate, c'est chouette, on passe des bons moments. Hein. C'est vrai qu'on a une vie, je pense, en France, enfin, pas tous, mais voilà, dans nous, les cercles dans lesquels on vit, on a des vies qui sont cool quand même, quoi. Enfin, on a beaucoup de temps pour les week-ends, pour la fête, on est pas mal à vivre sur des temps partiels, enfin, voilà, où on a vraiment des temps aussi qui sont festifs et animatifs. Et du coup, est-ce qu'on serait pas un peu trop cigale ? Parce que est-ce qu'on prépare assez la suite avec ce qui va nous amener, hein. On sait très bien que le réchauffement climatique, il nous amènera des choses pas très fun à vivre, et je suis pas sûre qu'on se prépare. Voilà, ça me fait penser un petit peu à cette fable là je sais pas si ça t'évoque aussi quelque chose.
Ouais, et je pense que il faudra aller chercher loin dans nos ressources, dans nos valeurs, pour ne pas être la fourmi non prêteuse quand la bise sera venue.
Ouais. Bon, bah voilà, petite proposition de réflexion. Hein, n'hésitez pas à aller creuser.
Voilà, voilà.
Donc, on passe... on va s'arrêter là pour les patinages parce qu'on a fait un... Ah, t'en as un autre ? Oh bah non, bah... Non, mais là, c'est trop la déprime. Un autre petit patinage, allez, pour finir.
Mais j'avais fait exprès de prendre celui-là parce qu'il est plus léger. C'est mon smartphone qui vient de me lâcher après 7 ans de loyaux services, de bons et loyaux services. Bon, j'avoue que ça fait 2 ans qu'il est plus bon, le service. Très clairement, au bout de 7 ans, un téléphone, il sent bien qu'il doit partir. En tout cas, qu'est-ce que je fais maintenant ? Voilà. Mes fils, ils m'ont dit tout à l'heure, t'avais dit que c'était ton dernier smartphone. Voilà, donc en effet, il faut que ce soit mon dernier smartphone. Ce qui est complexe, c'est que là, du coup, je suis le dernier de la famille sur WhatsApp. parce que Marion a déjà sauté le pas. Je prends le train beaucoup et du coup, je l'utilise presque systématiquement, le partage de connexion Wi-Fi, etc. Donc ça, c'est le deuxième point. Moi, je suis un développeur. J'utilise de temps en temps le téléphone pour mon métier.
Challenge.
Voilà. On peut parler d'un challenge quand même. Après, plus le challenge est gros, plus ça vaut le coup, je pense. Plus on est fier. Là, j'avoue que ça va être un objectif du mois de savoir ce que j'en fais, parce que là, je ne suis pas joignable depuis quelques jours. D'ailleurs, voilà, si vous m'avez envoyé des messages... ben, opter pour un autre moyen de communication, le pigeon voyageur ou le télégramme. Mais là, ça ne marchera pas pendant quelques jours.
Ça amène... Là, on va avoir un fils qui rentre en sixième, un autre qui rentrera en sixième dans un an. On va être confronté à la demande du téléphone portable, on le sait. Et on sait que nos enfants, ils veulent pas des téléphones portables pour téléphoner. Ils veulent des smartphones, hein, clairement. Je dis nos, les nôtres pas encore, mais en tout cas, cette génération-là. Moi, je pense que ça pose vraiment cette question de la place du smartphone dans nos vies d'adultes, dans nos vies de parents. Et quelle place on veut que ça ait dans la vie de nos enfants. Et moi, je suis persuadée qu'en fait, on a un vrai rôle à jouer. Voilà, c'est nous, adultes, qui avons l'argent pour acheter ces smartphones. Donc, c'est bien nous qui les mettons entre les mains de nos enfants. Et que nos enfants, je pense, ne mourront pas. N'auront pas de mort sociale s'ils n'ont pas de téléphone. Mais voilà, ils seront comme ceux qui n'avaient pas la télé, rappelez-vous, dans les années 80. Et bah, j'aimerais bien qu'on fasse une étude là-dessus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens?
Ils ont mal tourné.
Ils ont fini tout seuls dans leur coin.
Mais en plus, c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, j'ai déjà beaucoup bossé sur moi ces dernières années. Vous le savez, si vous me connaissez depuis quelques années, je me suis vraiment clairement, j'étais encore drogué. Et du coup, mes enfants, ils me voyaient encore utiliser souvent le téléphone, etc., à certains moments, et du coup on a ce devoir d'exemplarité aussi pour réussir à faire comprendre le fond du problème et de la solution aussi. C'est pas juste en leur disant des trucs, c'est en leur montrant et en leur montrant que c'est possible, parce que on est beaucoup plus bloqué par nos croyances et ce qu'on voit par le fait de s'en passer, je pense. Là ça va très très bien marcher quand je vais m'en passer, mais il faut que je me sèvre, il faut que je réussisse à l'accepter, ce truc-là, et puis ça va rouler.
Enfin, moi, j'ai plus de smartphone depuis janvier, donc ça va faire quasiment 6 mois maintenant. Et je trouve que l'un des intérêts, là, je note depuis presque 9 mois le nombre de livres que je lis par mois. Et depuis janvier, j'ai augmenté fortement ce nombre de livres parce que clairement, quand on n'est pas à scroller toute la soirée sur nos téléphones, on passe plus de temps aussi à lire. Dans le train, je faisais pas ça, mais j'y passais quand même plus de temps. Dans le train, je passais aussi du temps à faire ça, alors qu'aujourd'hui, je fais quasiment que de la lecture ou de la sieste. Et je trouve que c'est des vrais temps de qualité aussi retrouvés sur l'endormissement le soir. Je trouve qu'il y a un vrai gain hyper important, quoi.
Donc c'est cool. C'est vrai que rationnellement, j'ai envie de ça. Par contre, je suis drogué. Du coup, je sais, je suis conscient. Et voilà, je sais que... Donc, je vous en voudrais pas, hein, ceux qui gardent... Vous tous, d'ailleurs. Je sais très bien... J'ai une collègue, j'ai deux collègues qui ont fait ce choix-là déjà. Donc,
on
passe au Caire
pour nos patinages ce soir. Hein, je pense qu'on en avait pas mal. Il est temps de passer au Caire, du coup. Qu'est-ce que t'as noté, Léni ? Non, toujours. T'as rien noté. Bah si, tu peux peut-être parler de la journée à Nantes, du coup.
On a passé une petite journée à Nantes en famille. On a fait l'éléphant parce qu'on a emmené une jeune fille au pair qui était chez une copine, une Finlandaise. Et du coup, on lui a fait un petit tour de Clisson, un petit tour de Nantes, un petit tour... c'était pendant la canicule. La Finlandaise, pendant 40, elle était là, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'était chouette, ouais, c'était sympa. Après, je l'avais pas mis parce que pour moi, c'est pas forcément non plus une journée... de total kiff pour moi. Enfin, j'ai l'impression que je passe beaucoup plus de bons moments quand je suis dans le potager ou quand je suis dans la nature, etc. La ville m'excite beaucoup moins qu'avant, très clairement. Enfin, les machines, c'est très rigolo, c'est très sympa. Je suis très curieux, j'aime bien voir comment les engrenages fonctionnent, mais je vois bien que c'est plus ça qui m'anime. Hein.
Tu pourrais parler de la journée potager où on a défriché pendant une journée.
Et ouais, c'est hyper chouette. Ouais. C'est hyper chouette de voir qu'il y a 1000 abeilles autour de toi. J'ai découvert un nid de guêpe. Et du coup, je me suis documenté. Et les guêpes, le saviez-vous, c'est très important dans un potager. Donc il ne faut surtout pas enlever vos nids de guêpes quand ils sont près de vos potagers. Parce que en plus, ça pique pas plus que ça. Les guêpes, ça fait chier un petit peu au moment de l'apéro. Mais en vrai, c'est gérable. Parce qu'ils sont hyper efficaces. Ils sont omnivores. Et du coup, ils mangent tout ce qui est puceron, tout ce qui est... petit truc un peu nul qui mange les chenilles, les trucs comme ça, qui mange vos plantes potagères. Donc, faut les garder.
Bon, alors moi, j'ai du vrai care, du coup, hein, parce que toi, tu dérives à chaque fois. Moi, j'ai noté le week-end avec les Fabuleuses à Paris. Donc ça, c'était... Je vous en ai déjà parlé, mais je fais partie d'une communauté en ligne qui s'appelle les Fabuleuses. Et on se voit donc... beaucoup, enfin on se voit en visio, on passe pas mal de temps à échanger sur les réseaux un petit peu. C'est un podcast que je reçois toutes les semaines à écouter, donc c'est du temps qui est plutôt virtuel. Et là on avait les retrouvailles de la grande famille, donc moi je suis à ma 4e année dans cette communauté, et du coup on se retrouvait en vrai à Paris. Donc je suis montée à Paris les 10 et 11 juin, et c'était du temps pour voir des vraies filles avec qui j'avais échangé soit en visio, soit par message. Il y avait Marie, une fille avec qui qui a 5 enfants comme moi, qui habite à l'autre bout de la France, parce qu'elle habite pas très loin de Strasbourg, et en fait elle s'est cassée la jambe au mois de février, et pendant quelques semaines je lui ai envoyé des mots, pas tous les jours, mais je lui ai envoyé plusieurs cartes et plusieurs petits messages, voilà, pour la soutenir, parce que je me suis dit, si moi je me cassais la jambe avec mes 5 enfants, ah, ça serait juste l'horreur. Et du coup, Marie, quand je suis arrivée là-bas, elle m'a reconnue tout de suite, et elle m'a serrée dans ses bras en disant, oh merci, merci, merci. Et c'est très agréable, voilà, de retrouver des mamans, hein, comme moi, qui sont devenues presque des copines, alors qu'on se voit jamais. Du coup, donc c'était sympa. Voilà, c'était un peu un week-end à 1000 à l'heure, parce que dans le même week-end, quand on fait l'aller-retour à Paris, puis un petit bout pour aller à Créteil jusqu'à la salle, puis voilà, aller à l'hôtel le soir, enfin papoter tout le temps. C'est vrai que c'était assez intense, mais voilà, j'ai trouvé ça super chouette. Dans le train, j'ai eu aussi un vrai moment de qualité, parce que le train sans enfants, bah en fait, c'est super calme et on peut lire, écrire. Voilà, c'était assez chouette et j'ai vraiment aimé ce temps-là. Et puis dans le Caire, j'avais noté aussi la fête avec mes collègues. Vendredi soir, j'ai invité 25 de mes collègues de boulot à venir faire un petit apéro dînatoire à la maison. Donc c'était très sympa. On a passé un temps, voilà, un temps de qualité. Léni a enfin pu découvrir les gens dont je lui parle depuis 5 ans et qu'il n'avait jamais rencontré. Donc voilà, c'était chouette de vivre ce temps-là en dehors du travail avec des gens que j'apprécie, voilà, que j'ai envie de découvrir un peu plus aussi en dehors du travail. Et voilà, le Caire est toujours bien chargé pour moi. Ah oui, j'ai fait 2 restos avec des copines ce mois-ci. Un avec Émilie, où on s'est retrouvés à Clisson samedi soir. Et puis un autre avec... Ah bah celui-là, je voulais vous en parler parce que j'ai... En fait, j'étais très embêtée parce que j'avais pris un resto avec ma copine Mathilde de Nantes, qui est ma copine qui m'a initiée au zéro déchet il y a quelques années. Donc je sais qu'on partage pas mal de cette volonté de protection de la planète et de notre environnement. Et du coup, j'avais pris le resto le soir, et le soir, il n'y a plus de train pour rentrer. Et donc du coup, je n'avais pas envie d'aller en voiture à Rezé, parce que je trouvais ça un peu débile de brûler du carburant juste pour passer un bon moment avec une copine. Donc du coup, j'ai opté quand même pour le train, avec un départ en train à 18h de la maison, un resto avec Mathilde, et j'ai dormi du coup chez Mathilde à Nantes, et j'ai repris le train à 6h30 le lendemain matin pour être opérationnelle, pour m'occuper des enfants, parce que Léni avait une réunion jeudi matin. Donc voilà, l'idée de prendre le relais de Léni à 7h45 à la maison. Donc voilà, en fait, je me suis rendu compte que c'était possible d'imaginer voilà, des choses où on peut se faire du bien à soi sans forcément pourrir ce qui nous entoure. Donc voilà, sans rajouter de l'essence dépensée inutilement. Et puis au prix de l'essence, je pense que c'est plutôt rentable comme opération. Et du coup, ça m'amène aussi à nos objectifs pour voilà, le mois qui arrive, hein, on arrive sur nos objectifs. Et moi, j'ai un objectif care, enfin 2 objectifs care, parce que je pense que je vais être moins dans le faire. On rentre dans la période de vacances scolaires, hein. Le 7 juillet, les 5 enfants seront à la maison non-stop. Donc il y a du care, parce que forcément, il y a le prendre soin des enfants et réussir à prendre soin de moi pour... ne pas hurler au quotidien. Donc voilà, au mois de juillet, je pense que je vais aller pas mal me promener à Noirmoutier chez mes parents pour... voilà, à Noirmoutier parce qu'il y a la mer, et chez mes parents parce qu'il y a le relais des parents, et puis aussi la piscine qui est un très bon relais aussi. Je les remercie fortement pour cette installation judicieuse en temps de vacances scolaires. Et puis le care, du coup, je pense aussi pour prendre soin de... Moi, j'aime bien l'été parce que c'est un moment où j'ai du temps, du coup, pour aller voir ma famille et mes sœurs, parce qu'on est quand même loin. Et du coup, comme je n'aime pas me déplacer pour 24 heures là-bas, parce que l'idée, c'est aussi de passer plus de temps avec eux. Donc je suis contente parce qu'au mois de juillet, je vais retrouver mes parents à Noirmoutier, et puis après, mes parents et mes sœurs à Aujac. Donc voilà, je le mets dans le care. L'idée que tous ces temps-là soient des moments de jeu, de temps de partage. Voilà, j'ai un gros objectif care du coup pour le mois prochain. J'étais très productive au mois de juin. Je vais mettre une petite croix sur la productivité au mois de juillet, mais voilà, j'aimerais bien aller plus sur le prendre soin de moi, des autres, de ma famille proche. Voilà, j'ai vraiment envie d'aller vers cet objectif là au mois de juillet. Un objectif, monsieur Bernard ?
Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est communo. Là, c'est la fin de la première version. Donc là, c'est évident, ça sort ce mois-ci. Et ce que j'aimerais, c'est aussi réfléchir à une stratégie de lancement d'une première version en septembre. Parce que du coup, avec le mois d'août où on va être en vacances, on va pas avoir le temps de réfléchir à ça. Je pense que ça peut être habile de commencer à réfléchir un petit peu à ça, à la stratégie de communication. Comment on lance, où est-ce qu'on lance, avec qui, etc., etc. Il y aura une première version qui sera utilisable de A à Z, qui sera à optimiser, à améliorer, mais en tout cas, on aura une première version utilisable pour le collectif. Le deuxième sujet, deuxième objectif, c'est que là, du coup, au mois d'août, on va avoir du temps à la maison au niveau des vacances pour finir la cabane, la fameuse cabane dont on parle plus, mais qui est toujours dans notre jardin. Du coup, là, ce que je veux faire, c'est un petit plan de cabane pour que ce soit plus facile à expliquer aux petits comment je vois les choses, et puis éventuellement faire la liste du matériel s'il faut aller, enfin pour qu'on sache exactement quoi aller acheter et où aller acheter les choses, qu'on soit prêt.
Donc moi je rajouterai l'objectif de sérénité pour ce mois de juillet. Voilà, je vais œuvrer comme à chaque vacances scolaires pour être la plus sereine possible sur ces temps et vivre des temps de qualité avec les enfants. Ouais, c'est le même que le premier, mais je le dis deux fois comme ça, il est bien intégré. Et puis je crois que voilà, je n'ai pas d'autres objectifs pour ce mois-là. C'est déjà pas mal, c'est déjà un gros volet. Et pour terminer ce sixième podcast, du coup, j'avais envie d'envoyer un petit message à Gabin, donc qui est mon neveu et mon filleul, qui fête ses 4 ans aujourd'hui. Alors, peut-être pas le jour où vous écouterez le podcast, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui. Et voilà, du coup, j'avais envie de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et puis, comme j'aime pas trop les cadeaux classiques achetés dans la grande distribution, voilà, j'ai envie de passer du temps avec lui cette année, donc je vais lui faire une petite proposition de temps en commun. Mais j'ai aussi envie de lui dédier la lecture du soir, de lui offrir cette petite lecture qui va faire du lien, vous le verrez avec, enfin vous allez le voir tout de suite avec le podcast, avec la lecture de La cigale et la fourmi de Jean Lafontaine, voilà, que j'ai envie d'offrir plus particulièrement à Gabin pour son 4e anniversaire. Voilà pour le petit message, j'espère que sa maman lui fera écouter dans les jours à venir ce petit message. Alors c'est parti, bon anniversaire Gabin, et allons-y pour La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, ah, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Dansez maintenant.